Vous écoutez RTL.
Nous sommes convaincus que Maddie McCann est morte et que notre suspect l'a tuée. Nous n'avons pas retrouvé le corps, mais nous avons assez d'indices pour affirmer que le suspect a bien tué Maddie McCann.
Our suspect killed Maddie McCann.
Bonsoir, nom Bruckner, prénom Christian, âge 43 ans, dernier domicile connu, la prison de Hanovre, au nord de l'Allemagne, où il purge une peine pour viol. Voici donc l'homme qui détient peut-être les secrets de l'une des plus énigmatiques disparitions de l'histoire criminelle, celle de la petite Madeleine McCann, Maddy, dans la station balnéaire de Praia da Luz au Portugal. C'était le 3 mai 2007, ce mercredi 12 mai 2021, Maddy aurait dû fêter ses 18 ans. Christian Bruckner est à ce jour le principal suspect dans cet enlèvement. La justice allemande est convaincue de son implication. Elle affirme disposer d'éléments accablant. Des enquêteurs qui, ces derniers mois, ont reconstitué la très discrète trajectoire de Bruckner, les 20 dernières années d'une vie de délinquance pas si ordinaire, où sa silhouette n'est jamais très loin, en fait, de scènes de crime où apparaissent des enfants. Maddy serait-elle l'une de ses victimes ? Serait-il cet homme un meurtrier itinérant, un serial killer jamais inquiété jusqu'ici ? C'est ce chemin obscur, celui de Christian Bruckner, que nous allons emprunter ce soir avec nos invités.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, un suspect nommé Christian Bruckner, soupçonné d'être derrière la disparition de la petite Maddy au printemps 2007 au Portugal. À l'époque, son nom n'apparaît pas dans la liste des témoins à entendre en priorité. Ce 4 mai 2007, la police judiciaire portugaise, en l'occurrence des inspecteurs de la brigade criminelle de Portimao, est à pied d'œuvre au rez-de-chaussée de l'Ocean Club, une résidence hôtelière dans la station balnéaire de Praia da Luz, dans l'Algarve, au sud du pays. La veille au soir, la petite Maddy McCann, 3 ans, a disparu alors qu'elle dormait dans l'appartement 5A. Dans la même chambre étaient également endormis son frère et sa sœur, les jumeaux Sean et Amélie, les enfants de Jerry et Kate McCann, une famille britannique en vacances ici depuis 5 jours. Les policiers n'ont aucun doute, la petite Maddy n'a pas fugué. Elle a été enlevée, on l'a fait disparaître. Les hypothèses ne manquent pas. Tout d'abord, celle d'un rôdeur qui aurait pu entrer dans la chambre par la fenêtre. Ce ne serait pas la première fois. 17 jours avant la disparition de Maddy, l'Ocean Club a fait l'objet d'une série de cambriolages. La résidence apparaît alors facile d'accès. Le touriste qui louait l'appartement 5A avant l'arrivée des McCann a trouvé un homme sur son balcon qui lui a demandé de l'argent. L'individu n'avait eu qu'à escalader quelques marches pour se retrouver à cet endroit. Ces visiteurs sont de petits voleurs, des toxicomanes à la recherche d'un peu d'argent. Ils n'ont pas, aux yeux de la police portugaise, des profils de ravisseurs. À leurs yeux, de ces policiers, la piste des délinquants n'est pas solide. Les jours passent et aucune trace de la petite Madeleine McCann. Des fouilles sont entreprises dans la région de Praia da Luz. Une retenue d'eau est explorée. Des premiers témoins, pour la plupart des hommes ayant eu maille à partir avec la justice, sont entendus 12 jours après l'enlèvement. Un agent immobilier britannique, Robert Murat, 34 ans, est placé sous le statut de suspect par la justice. 3 témoins l'ont aperçu près de l'appartement 5A après le rapt. Robert Murat sera finalement mis hors de cause. Le 6 septembre 2007, ce sont les propres parents de Maddy qui sont considérés comme suspects, menacés d'un placement en détention. Les investigations s'emballent et se focalisent exclusivement sur la piste familiale. Le chef d'enquête, l'inspecteur Gonçalo Amaras, répète à qui veut l'entendre que les parents sont les auteurs du rapt, un accident qui aurait mal tourné. Il maintiendra contre vents et marées cette hypothèse avant de devoir quitter la police judiciaire. Jerry et Kate McCann sont exonérés de toute responsabilité dans la disparition de leur fille. L'enquête est alors dans un désordre indescriptible. Pas moins de 6 portraits robots réalisés, aucun témoignage concordant. Scotland Yard estime que beaucoup trop de temps a été perdu. Il va falloir revenir à la piste de l'homme seul et repasser en revue les suspects potentiels. En collaboration avec le Portugal, la Metropolitan Police de Londres va devoir tout reprendre à zéro. En passant au crible, relevé téléphonique, facture, vidéosurveillance et témoignage, enfin digne de ce nom. Bonsoir Georges Moréas.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir de l'heure du crime. Vous êtes l'ancien patron de l'anti-gang et puis l'auteur d'un blog très suivi qui s'appelle Police, etc. Alors, je viens de le rappeler, Georges Moréas, les premiers pas d'une enquête sont toujours capitaux, évidemment. Ils n'ont pas ces policiers portugais dans leur viseur, alors Christian Bruckner. Pourquoi c'est si important, ces premiers instants, finalement, sur la scène de crime parfois, tout se joue à ce moment-là, dans la détection d'un suspect ou d'un coupable.
Oui, c'est vrai, dans une enquête criminelle traditionnelle. C'est-à-dire on découvre un corps sans vie et il y a un protocole qui est bien rodé d'enquête. Mm-hmm. D'abord les constatations, la police technique, scientifique, le voisinage, l'environnement, etc. Tout ça s'enchaîne d'une manière systématique. Dans le cas d'une disparition, il en va autrement parce que c'est à chaque fois un cas d'espèce, en fait. Mm-hmm. Et surtout quand c'est un enfant qui disparaît. Et évidemment, la première réaction des premiers enquêteurs sur place, qui ne sont pas nécessairement des officiers de police judiciaire, c'est de voir s'il ne s'agit pas d'une fugue ou d'une fuite ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retrouver l'enfant le plus rapidement possible, si dans l'hypothèse où elle aurait pu tout simplement fuguer ou partir.
Bien sûr,
c'était l'hypothèse des premiers instants de l'enquête, c'est-à-dire que l'impression était que la gamine s'est réveillée toute seule, elle avait à peine 4 ans, et en fait elle a pris peur et elle est sortie.
Ouais, c'est ça.
C'était la première impression des enquêteurs.
Ça, c'était la première impression. Puis il va y avoir une impression qui va grandir chez les enquêteurs, et notamment dans la tête du chef d'enquête, on peut le dire comme ça. C'est la piste familiale, les parents. Est-ce qu'on ne sait pas vraiment un peu trop focalisé sur cette piste familiale? Les parents, on le rappelle, qui sont les premiers, finalement, suspects dans ce type d'enquête aussi. Il faut bien le reconnaître.
C'est vrai, c'est typiquement les affaires de disparition, même pour les adultes d'ailleurs. Les enquêteurs se penchent toujours sur l'environnement familial ou sur les proches pour voir s'il n'y a pas une relation entre la disparition ou éventuellement quelqu'un qui aurait intérêt, ou pour une raison ou pour une autre, à le faire disparaître. Dans le cas présent, il est évident qu'il y a eu cette enquête au niveau des parents, et ce qui a attiré l'attention, je crois, des enquêteurs, et le commissaire Maral nous l'a bien expliqué, c'est que en fait, il y a eu plein de contradictions dans les premières déclarations des parents et de leurs amis avec qui ils étaient en train de dîner ce soir-là, pour une raison. Peut-être simplement pour éviter de dire qu'ils avaient fait une petite erreur en laissant la gamine toute seule, je ne sais pas. Enfin, il y a eu cette impression de mensonge au départ sur des petits détails. Et ouais, ça a attiré évidemment l'attention des enquêteurs.
Et on comprend d'ailleurs les imprécisions des parents quand ils sont dans un état de stress intense. Donc c'est toujours compliqué de détecter ce qui est le vrai du faux dans ce genre d'affaires. Est-ce qu'on a perdu du temps, Georges Moréas, dans cette affaire au début, dans ces pistes familiales?
C'est sûr que c'est pas facile. C'est une région d'Europe, je crois, la plus peuplée au niveau touristique. Donc c'est très difficile. C'était très difficile pour les enquêteurs de faire le point sur place. Mais il y a eu tout de suite, très rapidement. Par exemple, vous voyez, le directeur de la police judiciaire à Lisbonne a été informé dans la nuit par l'ambassade de Grande-Bretagne qu'il y avait eu un enlèvement d'enfants. C'est même pas sa hiérarchie qui l'a prévenu, c'est l'ambassadeur. Donc tout de suite, il y a eu une pression très très forte au niveau des enquêteurs. Toute la hiérarchie policière et judiciaire s'est mise en place rapidement, s'est un peu affolée. Et ça a un peu bloqué, je crois, l'enquête de base, l'enquête traditionnelle des enquêteurs.
Ce que vous nous dites, c'est qu'il y a eu du stress chez les enquêteurs parce qu'ils étaient sous pression et que là, peut-être les choses ont commencé, non pas à déraper, mais en tout cas un petit peu à se cristalliser, à se focaliser et à se bloquer. Bonsoir Alain Boulet.
Oui, bonsoir.
Merci vous aussi d'être ce soir l'invité de l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'APEV, c'est l'aide aux parents d'enfants victimes, association.
Oui.
Et émission effectivement qui n'est pas due au hasard ce soir, parce que on a choisi de la faire parce que le 25 mai, il faut le rappeler, ça sera la journée internationale des enfants disparus. On en discutait Alain Boulet avec Georges Moréas. C'est toujours compliqué au début, sans doute, de mobiliser les policiers sur une affaire de disparition d'enfants, parce que il y a toujours ce spectre, finalement, ce que disait très bien Georges Moréas, soit de la fugue, soit de, finalement, de l'enlèvement intrafamilial. C'est assez compliqué, les démarrages d'enquête dans ces cas-là.
Ben, je ne dirais pas que ce soit très compliqué, parce que je crois que les policiers s'engagent très très vite et massivement chaque fois qu'il y a une disparition d'enfant. Par contre, ils ne peuvent pas évacuer le fait que l'enlèvement peut être dû à une personne de l'entourage de l'enfant. Mmh. Donc c'est ce qui cache un petit peu peut-être toute l'enquête, c'est qu'on se focalise plus sur, j'allais dire, l'interrogatoire des parents, pour savoir ce qui a pu se passer, pour savoir si, par hasard, de tout ce qui se passe, derrière et que l'on ne voit pas. Mais dans tous les cas de disparition, surtout un enfant jeune, les enquêteurs se mobilisent très vite. Vous parliez de fugue. Pour Maddy, c'était impossible que ce soit une fugue. Jusqu'à une dizaine d'années, les enquêteurs ne privilégient jamais la piste de la fugue. Par contre, à partir de 12-13 ans, c'est très différent. Et après, quand c'est un ado, bien sûr, on pense plus à la fugue.
Il va falloir des années pour que le nom de Christian Bruckner, qui n'est pourtant pas un inconnu des autorités portugaises, émerge. Un individu qui a disparu du paysage après l'enlèvement, une espèce de passe-muraille de la délinquance. La première fois que le nom de Christian Bruckner a surgi dans l'enquête Maddy, c'était 6 ans après la disparition de la petite fille, en 2013. La Metropolitan Police de Londres, qui a repris tout le dossier, a alors identifié 38, puis au total 41 personnes présentées comme des témoins dignes d'intérêt, nécessitant vérification et audition. Il apparaît que Bruckner, qui a 37 ans à cette époque, n'est plus résident au Portugal. Il s'agit d'un délinquant multirécidiviste. Il était sorti de prison 5 mois avant la disparition de Maddy. Il avait écopé avec un routard autrichien de 8 mois de détention pour le vol de 320 litres de gazole, siphonné dans les réservoirs de poids lourds, accusé aussi d'avoir écoulé des passeports volés. Bruckner, un homme blond et athlétique de 1m80, est encore présenté par la police portugaise comme un dealer de cannabis qui fréquentait la station balnéaire de Praia da Luz. Les Allemands ne sont pas en reste. Ils font état de 17 condamnations pour des petits vols et aussi des infractions plus graves. Un premier cambriolage dans une maison en 1992, à l'âge de 15 ans, 2 ans plus tard, 1994, une agression sexuelle sur une fillette de 6 ans à Wurzburg, des attouchements et des faits d'exhibition sur d'autres enfants. Il avait alors été condamné à 2 ans de prison, mais n'avait accompli qu'une partie de sa peine. Il décide alors de quitter son pays pour aller se faire oublier le plus loin possible. Christian Bruckner, né Christian Fisch et adopté par une famille de Wurzburg en Bavière, part à l'aventure. Avec sa petite amie de l'époque, il prend au hasard la direction du Portugal. Il choisit de se rendre jusqu'à Lagos, dans l'Algarve, car ce nom-là lui plaît. Une ville toute proche de la station balnéaire de Praia da Luz. Le couple n'a pas d'argent, Bruckner se retrouve seul et loge la plupart du temps dans des campings situés au bord de l'Atlantique. Il réside dans le coin lorsqu'un petit Allemand de 6 ans, René Hazy, est porté disparu sur la plage de Aliézour le 21 juin 1996. René a échappé à la surveillance de son beau-père et de sa mère. Il s'est brutalement évaporé sans que personne ne sache ce qui lui est arrivé. La police va retrouver tous ses habits sur la plage, mais aucune trace du corps. Pas de témoins et pas d'indices. Les investigations concluent à une noyade, bien que l'océan n'ait jamais rendu le corps de l'enfant. Bruckner n'est pas du tout inquiété dans cette histoire. Il vit alors de petits trafics. En 1999, alors que les autorités allemandes lui imputent d'autres agressions sexuelles sur mineurs, il est arrêté et extradé vers son pays d'origine. Il est à nouveau condamné et emprisonné. Georges Moréas, ancien patron de Nottingham et auteur du blog Police, etc. C'est étonnant quand même que cet homme, dont on va parler avec Delphine Herbollier, c'est étonnant que cet homme n'apparaisse pas dans les fichiers finalement de la police portugaise à ce moment-là.
On se place très loin dans le temps. Et à l'époque, en dehors de la Grande-Bretagne, je pense que ni la France, ni l'Allemagne, ni le Portugal n'avaient de fichiers des prédateurs sexuels. Ouais. Donc il n'y avait pas de recherche ciblée possible, en fait.
Il n'y avait pas effectivement de correspondance, c'est ça, hein, ces fameux fichiers qui existent aujourd'hui d'ailleurs, qui fonctionnent plus ou moins bien, mais qui existent.
Voilà, c'est ça, qui existe en France depuis quelques années, qui sont justement destinés à faire des recherches rapides en cas de disparition d'enfants ou d'agression sexuelle sur des mineurs. C'est très important. Pour l'enquête, ça peut aller très très vite, mais à l'époque, ça n'existait pas.
Ça n'existait pas. Delphine Nerbollier, vous êtes en ligne avec nous ce soir, dans l'heure du crime,
oui.
Correspondante de RTL à Berlin. Delphine, vous connaissez bien cette affaire, vous avez travaillé dessus, vous vous informez régulièrement sur la suite que prend ce dossier, ou la tournure que prend ce dossier. Racontez-nous, Delphine, que sait-on de ces premières années de Bruckner? Qui est-il? C'est un enfant qui a été adopté, c'est ça, hein?
Oui, il a été adopté quand il était tout bébé et il a grandi jusqu'à ses 15 ans environ avec le couple donc il l'avait adopté et avec deux autres enfants également adoptés. Une famille avec qui apparemment il n'a plus de contact aujourd'hui. Alors à l'époque, ils habitaient donc en Bavière, près de Würzburg, dans un petit village. Et d'après des témoignages de voisins, c'est une famille difficile hein, avec beaucoup de disputes, de cris. Et puis, vers ses 15 ans, Christian Bruckner a été placé dans un foyer pour enfants difficiles, dans la grande ville d'à côté, Würzburg, donc, après que son père, apparemment, a eu un accident de voiture, il ne pouvait plus vraiment s'en occuper aussi bien. Bruckner commence alors, à l'époque, une formation de mécanicien qui n'a jamais terminé.
Alors, il a une trajectoire, je l'ai rappelé brièvement, mais qui est vraiment... Il tombe très vite dans la délinquance, hein, Christian Bruckner. Il est tout de suite connu de la police, de sa ville et de la justice.
Mmh. Oui, tout à fait. C'était un enfant, on dirait, difficile, un adolescent difficile. Il a grandi dans son village. Il faisait partie d'une bande de jeunes qui détérioraient des horodateurs, qui volaient les journaux que l'on distribue devant les portes des maisons, des jeunes qui commettaient des petits larcins ensemble. Et puis, à partir de ses 15 ans, Bruckner a été en effet connu des services de police et de justice. Mais il faut quand même attendre une année plus tard, hein, lorsqu'il a 16 ans, pour que les faits deviennent vraiment beaucoup plus sérieux. Hein. Comme vous l'avez déjà évoqué, il agresse sexuellement petite fille de 6 ans et puis un autre enfant de 9 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il est condamné pour la première fois à 2 années de prison et il a à peine 17 ans.
Et il a à peine 17 ans et effectivement, il est dans cette spirale de l'agression sexuelle. Et d'ailleurs, les faits vont se multiplier. Il va récidiver à maintes reprises. Alain Boulay, vous êtes en ligne ce soir, président fondateur de l'aide aux parents d'enfants victimes. On en disait un mot avec Georges Moréas. À l'époque, il n'y a pas de coopération entre les polices et les justices européennes, notamment sur les cas de délinquance sexuelle. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait des progrès dans ce sens-là? Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, le nom de Bruckner émergerait beaucoup plus vite dans une affaire à l'étranger?
Bah, écoutez, ça, on peut l'espérer et l'imaginer, car il y a maintenant quand même des fichiers européens des délinquants sexuels. Il y a quand même une plus grande coopération, aussi bien au niveau des polices qu'au niveau justice. L'extradition se fait plus facilement pour ces individus. Donc je crois que depuis 10-20 ans, il y a eu une évolution du côté police et du côté justice, ce qui est quand même très important.
Et évolution positive, Alain Boulay, on peut le dire comme ça.
Et une évolution très positive, oui. Les gens se parlent, les gens se comprennent, travaillent ensemble. Il n'est pas étonnant maintenant de trouver deux polices de pays différents européens qui travaillent main dans la main dans une enquête, avec bien sûr le prérogative de chacune, mais chacun ne reste pas dans son coin. Enfin, on a connu ça il y a plusieurs années. Maintenant, je crois que on est passé vraiment à une vitesse supérieure.
La police allemande est informée en 2013 de l'apparition du nom de Christian Bruckner dans l'enquête Maddy. Pas facile pour autant pour elle de relier ce délinquant itinérant à cette disparition. Va alors s'engager une enquête au long cours. Le 4 juin 2020, Hans Christian Wolters, procureur de Brunswick en Basse-Saxe, fait une sortie fracassante en indiquant que Madeleine McCann a été enlevée et sans doute tuée. Les soupçons, est-il indiqué dans cette communication à la presse, se portent sur un homme de 43 ans, un certain Christian B., qui purge alors une peine de 7 ans de prison pour un viol commis au Portugal sur une touriste américaine de 72 ans, en 2005, 2 ans avant l'affaire McCann. À l'époque, Bruckner louait une petite ferme sur la colline de Monte Judeu, entre Praia da Luz et Lagos. Il n'avait pas été inquiété. Il ne sera dénoncé que 10 ans plus tard par deux de ses connaissances qui avaient retrouvé un caméscope appartenant à Bruckner, appareil ayant servi à filmer deux viols, celui d'une femme toujours non identifiée et celui de la septuagénaire américaine, une victime que l'on voit attachée à une espèce de poteau de torture, une mise en scène sadique. Recherché, Christian Bruckner avait été finalement retrouvé à Milan en 2018, où il se livrait à de la revente de cannabis. La police allemande, qui depuis longtemps travaillait main dans la main avec Scotland Yard sur cet homme, est convaincue qu'il est impliqué dans le dossier Madeleine McCann. Il est établi qu'au moment de la disparition de la petite Anglaise, Bruckner était bien au Portugal et plus précisément à Praia da Luz. Il est encore établi qu'environ une heure avant le rapt, son téléphone a borné dans le secteur du complexe hôtelier de l'Ocean Club. L'Allemand a reçu un long appel depuis un numéro non identifié entre 19h32 et 20h02. Impossible à ce jour de remonter jusqu'à ce numéro qui est celui d'un téléphone jetable avec un forfait prépayé pour l'heure. Ce mystérieux interlocuteur demeure inconnu. L'enquête précise qu'au moment des faits, le suspect disposait de deux véhicules, un camping-car Volkswagen de couleur jaune qui sera finalement vendu à un compatriote qui tient une casse auto au Portugal, véhicule retrouvé seulement en 2019, et une Jaguar XJR6 de couleur prune dont il a fait troublant, réenregistré l'immatriculation au lendemain même de la disparition, 4 mai 2007, sous le nom d'un certain Alexandre Bischoff, habitant Augsbourg, en Allemagne. Après le rapt, Bruckner a quitté subitement le Portugal avec un nouveau camping-car pour l'Espagne, un pays où la petite Maddy aurait été aperçue le 28 mai au matin dans la ville d'Alcocer, en compagnie d'un homme. Après ce passage en Espagne, Christian Bruckner rejoignait l'Allemagne pour s'y installer. Delphine Nerbollier, correspondante RTL à Berlin, la justice allemande paraît sûre à ce moment-là, et elle l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, on va le voir par la suite, de détenir un suspect dans l'affaire McCann.
Oui, bah oui, depuis un an environ, le procureur de Brunswick se montre assez sûr de lui sur ce dossier, même s'il faut quand même le dire, il ne donne pas beaucoup d'informations, ni de détails concrets.
Mais c'est un peu la loi d'ailleurs en Allemagne, on communique pas beaucoup ni sur les suspects, ni sur les enquêtes en cours.
Exactement, on communique très peu et dans le cas de la petite Maddy, pour le coup, on essaye de gagner du temps par rapport à Christian Bruckner pour continuer l'enquête sans avoir à lui fournir des informations pour qu'il puisse éventuellement se défendre. C'est un petit peu la politique du parquet. Procureur actuel, du parquet.
Oui. Alors, allez-y Delphine.
Non, mais c'est vrai que le procureur, par contre, a participé à une émission de télévision septembre dernier au Portugal. Et à cette occasion, il a quand même affirmé qu'il avait des preuves matérielles de la mort de la petite Maddy. Des preuves qui apparemment auraient été trouvées l'été dernier lorsque des fouilles ont été entreprises sur deux parcelles de terrain qui appartiennent justement à Christian Bruckner et qui se trouvent près de Hanovre. Alors, pour l'instant, on n'a aucun détail sur ces preuves matérielles. Je vous disais, il ne communique pas, mais l'enquête se poursuit. Le procureur a également déclaré récemment en Allemagne, au mois de février, qu'il pensait terminer une partie de cette investigation cette année. On verra bien d'ici.
Alors ça, c'est bien sûr, alors on verra bien, évidemment. Mais c'est très important ce que vous nous racontez, Delphine Nerbollier, c'est qu'effectivement, il y a eu des fouilles nombreuses, pas seulement en Allemagne, au Portugal aussi, qui se sont d'ailleurs révélées négatives. Et en Allemagne, vous dites qu'il y a sans doute des éléments matériels qui ont été retrouvés. On verra évidemment si ce sont peut-être des affaires qui appartiennent à la petite Maddy McCann, s'il y a des indices de ce genre. Et puis la justice, tout de même, a retracé le parcours de Bruckner depuis l'enlèvement de Maddy McCann. Il y a ce passage en Espagne qui est attesté par une connaissance de Bruckner. On le souligne ce soir, Delphine Nerbollier, parce que c'est un passage qui a fait couler beaucoup d'encre. Les enquêteurs anglais, notamment, avaient le sentiment que peut-être la petite Maddy était passée en Espagne.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a vous avez parlé de son fameux comparse, le routard autrichien avec qui il faisait du trafic de cannabis au Portugal. Mmh. Ils se sont retrouvés tous les deux en Espagne. Enfin, lui, l'Autrichien se trouvait en Andalousie et Bruckner lui aurait rendu visite donc juste après la disparition de Maddy, justement avec ce fameux camping-car américain que vous avez également évoqué. Donc il s'y trouvait effectivement revient en Andalousie un petit peu après la disparition de Mali. Le témoignage selon lequel Mali aurait été vu avec un homme, lui évoque une ville du nord de l'Espagne. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de connexion directe entre les deux, mais c'est vrai que évidemment, il était encore pas si loin des faits. Il est toujours là. En tout cas, il y a toujours un soupçon ou un doute autour de lui, de sa présence. Il n'est jamais très loin
Bien sûr, tout à fait. Il reste dans ce paysage. Georges Moreas, justement, cet homme, on parle du Portugal, on parle de l'Espagne, on parle de l'Allemagne, on va le retrouver finalement en Italie où il sera arrêté. Ça ressemble quand même à quelqu'un qui a le don de brouiller les pistes. Ce genre de profil criminel, c'est compliqué à suivre.
Oui, je crois que là, on a affaire à un individu qui est un délinquant d'habitude, donc qui, par définition, essaie de brouiller les traces qu'il peut laisser de manière à ce qu'on ne le retrouve pas, que ce soit pour quel que soit le délit qu'il a à se reprocher, il en a certainement beaucoup. Donc il y a une impossibilité, en quelque sorte, de suivre quelqu'un qui agit de cette manière-là. Donc, avec le temps, évidemment, on peut retracer ça, on peut retracer une partie de ses itinéraires. Et on peut trouver des coïncidences, mais ça doit être très difficile. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans le dossier en Allemagne, mais ça doit être très difficile.
Ce que vous dites, Georges Moreas, c'est que finalement, la fuite pour ce genre de criminel, il prend chaque fois beaucoup d'avance sur les enquêteurs. C'est compliqué par la suite de retrouver ce qu'il a pu faire.
Oui, en fait, il y a deux choses. Il y a délinquant d'habitude, donc quelqu'un qui fuit la police, qui fuit les contacts, etc., et qui ne laisse pas de traces. Et le deuxième point, c'est hélas classique, en tout cas pour les prédateurs sexuels, c'est souvent des gens qui agissent un peu au hasard, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a rarement un lien qui est fait entre l'auteur et la victime. C'est-à-dire que c'est un concours de circonstances qui fait que le criminel va s'intéresser à telle personne, à tel enfant, à un moment donné. Et il n'y a rien de préparé. Donc l'enquête est très difficile dans la mesure où il n'y a pas de concordance.
Tout à fait, pas de concordance, donc c'est compliqué à suivre pour les enquêteurs. Delphine Nerbollier, correspondante RTL à Berlin. Est-ce qu'on sait ce qu'il a fait un petit peu en Allemagne quand il est retourné après l'enlèvement de Mady? Il a continué ses petits trafics de drogue notamment?
Oui, exactement. Il a vivoté. Il s'est retrouvé en Bavière, dans sa région d'origine. Il a vivoté, il loge à l'époque la plupart du temps dans son fameux camping-car. Et puis il squatte aussi beaucoup chez des amis, chez des connaissances. Et puis il bouge beaucoup. Et il vit, entre autres, de la vente de stupéfiants.
Le fait est que, bien avant d'être rattrapé par l'affaire McCann, Christian Bruckner, dans son pays, va être à nouveau poursuivi pour pédophilie. Son nom va finir par être cité dans la disparition d'une petite Allemande de 5 ans qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la petite Mady. Rentré en Allemagne après l'enlèvement de Mady McCann, Christian Bruckner a mal à partir avec la justice pour du deal de drogue. Mais il se fait surtout rattraper pour des actes à connotation pédophile. Entre 2012 et 2014, alors qu'il tient à Braunschweig une espèce de kiosque où il vend des boissons et des confiseries, il attire les enfants de l'école voisine, leur offre des peluches et des petits cadeaux. De quoi susciter la vigilance de la direction de l'établissement. En 2016, et alors qu'il n'est pas encore désigné comme suspect dans l'affaire Mady, il est à nouveau condamné pour agression sexuelle sur mineur. Bruckner entre et sort sans cesse de prison. Il est fiché comme délinquant sexuel. La police s'intéresse donc naturellement à lui dans le cadre de la disparition en 2015 de la petite Inga Gehrig. 5 ans, cette fillette blonde ressemble beaucoup à Mady. Elle a disparu un 2 mai. La petite Anglaise avait, elle, été enlevée un 3 mai. Inga Gehrig était avec ses parents à Wilhelmshof, dans la propriété d'un couple d'amis. Elle a disparu alors qu'elle jouait dans le jardin. Plus personne ne l'a vue. Enlevé sans doute par un automobiliste qui l'aurait aperçu depuis la route toute proche, Inga, comme Mady, n'a jamais été retrouvée. Les policiers allemands recherchent alors le véhicule dans lequel se déplaçait à cette époque Christian Bruckner, un immense camping-car Allegro Bay RV de couleur blanche et bordeaux. L'enquête les conduit jusqu'à un entrepôt abandonné de Neuwergelsben. Le véhicule y est saisi. Christian Bruckner, porté sur l'alcool, avait l'habitude de raconter à ses connaissances qu'un tel véhicule pouvait servir à tous les transports, celui de la drogue comme celui des enfants. Un de ses témoins, l'Autrichien Michael Tachi, qui avait un temps vécu avec lui au Portugal, explique à la police que Bruckner aimait se vanter de ses forfaits. Il le décrit comme quelqu'un capable d'enlever des enfants. Il affirme que Bruckner pourrait très bien être impliqué dans la disparition de Maddy. Le camping-car Allegro est saisi et va faire l'objet de longues expertises dans l'entrepôt désaffecté. Les enquêteurs découvrent de nombreuses tenues enfantines, notamment des maillots de bain destinés aux tout-petits. Ils vont également saisir une clé USB contenant des photos pédopornographiques, sans toutefois y trouver d'images de Maddy ou d'Inga. Ce dernier dossier est cependant rouvert, comme celui en Belgique de Carola Titze, une adolescente assassinée dans les dunes de Dehaene, sur la côte belge. Bruckner aurait pu être à ce moment-là dans la région. Delphine Nerbollier, notre correspondante RTL à Berlin, parlez-nous un petit peu de l'affaire, de cette affaire qui ressurgit à la faveur de l'arrestation de Bruckner. C'est l'affaire Inga Gericke, on la surnomme la Maddy allemande.
Eh oui, parce que comme m'a dit, c'est une petite fille toute blonde, vous l'avez dit, et elle a surtout disparu comme ça, en quelques minutes, et sans laisser aucune trace. Alors, cette disparition remonte au mois de mai 2015. La petite fille, ce jour-là, passe la journée avec sa famille à la campagne, dans un lieu très boisé. Et elle y passait la journée avec des amis, et puis soudain, plus d'Inga. Les recherches ont été menées très rapidement avec beaucoup de policiers, un millier sur place, mais en vain. Et comme vous l'avez évoqué, bien, un témoin aurait vu une petite fille ressemblant à Inga entrée dans un véhicule bleu foncé, un véhicule qui n'a jamais été ni identifié ni retrouvé. Alors la police imagine que la fillette est allée dans la forêt pour ramasser du bois pour faire un feu de camp et qu'elle aurait disparu à ce moment-là. Et l'une des pistes mène à Christian Bruckner, mais sans certitude quand même. La veille de la disparition d'Inga, on sait qu'il se trouvait dans la région, à une cinquantaine de kilomètres de chez la petite fille, et il aurait eu un léger accident avec la présence donc de la police sur place. Mais en dehors de cela, aucune information quand même concrète n'a été officialisée pour relier cet homme de manière vraiment certaine à la disparition de la petite fille.
Alors oui, il n'y a aucun lien formel qui est établi à l'heure à laquelle nous parlons, même s'il y a cette espèce de soupçon que effectivement Bruckner soit un prédateur et qui rôde comme ça autour des enfants qu'il peut apercevoir et qu'il pourrait enlever. Alors racontez-nous aussi, Delphine Nerbollier, ce fameux entrepôt, parce que là l'entrepôt a quand même donné beaucoup d'éléments aux policiers. C'était une espèce de repère pour Bruckner, c'est ça, un endroit où il venait se reposer, sans doute dormir très souvent.
Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'il y faisait, mais c'est un entrepôt qui a été très très mal entretenu, en tout cas dans un terrain totalement en friche. Et c'est vrai qu'apparemment, il y avait partout des outils de travaux. Certains voisins l'auraient également vu creuser une partie du terrain, et c'est ce qui a quand même mis la puce à l'oreille des policiers qui ont donc entrepris des fouilles en été, qui sont allés voir pourquoi est-ce que Bruckner avait creusé le terrain. Plusieurs jours de fouilles ont été réalisés sur place et également à un autre endroit, une autre parcelle un petit peu plus loin, tout cela donc dans la région de Hanovre, mais à l'heure actuelle on n'a pas vraiment d'informations sur ce qui a été découvert puisque la police n'a pas communiqué.
Oui, mais Delphine Arbolier, c'est bien à cet endroit que le procureur laisse entendre qu'il y a eu des éléments importants qui ont été retrouvés concernant l'enquête Maddy, hein. On est bien d'accord, oui. C'est au cours de ces fouilles.
Oui.
Hein.
Oui, exactement. Et le procureur a confirmé avoir obtenu des preuves concrètes de matériel de la mort de la petite Maddy, et il évoquait exactement les fouilles de cet entrepôt et de ce deuxième.
deuxième terrain.
Alain Boulet, président de l'APEV, l'aide aux parents d'enfants victimes. Je rappelle que la journée internationale des enfants disparus est le 25 mai et c'est pour cela que ce soir aussi nous avons décidé de faire cette émission. J'ai envie de vous dire, c'est très triste comme constat, mais finalement une affaire d'enlèvement en appelle souvent une autre en matière criminelle.
Oh, c'est toujours très très difficile à faire, à trouver des liens de l'un à l'autre. Il est évident que dès le moment où un crime, quel qu'il soit, est commis, et dès le moment où on en fait, où on en parle beaucoup dans les médias, ça peut donner des idées à d'autres personnes. Certains. Mais je ne sais pas si réellement quelqu'un peut enlever suite à une information donnée dans la presse. C'est toujours très très difficile à voir.
Je ne dis pas ça, Alain Boulet, mais je dis que simplement, c'est pas la motivation. Du criminel, mais simplement on découvre grâce à une affaire, on en découvre une autre et puis une autre, etc. Ça a été le cas par exemple pour Michel Fourniret.
Oui, bien sûr. Ah oui, pardon. Oui, dès le moment où il y a un serial killer, on va dire, ou un serial enlever, un violeur, il est certain que, vu le nombre d'affaires qui sont inconnues, c'est tous les cold cases, parfois il suffit d'en découvrir un pour voir des relations avec les autres. Ça a été le cas de Michel Fourniret, ça a été le cas de plusieurs autres serial killers trouvés en France.
Des présomptions, des doutes, de curieuses similitudes entre certaines affaires, de quoi renforcer les certitudes du parquet de Brunswick, selon lesquelles le suspect est sans doute l'homme qui a enlevé Maddy en 2007 et a peut-être récidivé en 2015 avec Inga. À la mi-avril 2021, le procureur Hans Christian Wolters déclare qu'il continue de croire que Christian Bruckner, toujours appelé Christian B par la justice allemande, a bien tué Madeleine McCann. Au journal britannique Sunday Mirror, le magistrat déclare « Même si apparemment rien ne bouge, notre enquête sur l'affaire Maddy continue d'avancer à toute vitesse ». Le procureur Wolters ajoute que la police allemande coopère avec la Metropolitan Police de Londres et la police portugaise. « Même si 14 ans après l'enlèvement, les investigations ne sont pas toujours faciles, nous restons optimistes et avons bon espoir de résoudre cette énigme ». Enquête qui s'est encore enrichie avec le témoignage de Hazel Behan. Cette Irlandaise avait 20 ans en 2004, 3 ans avant l'affaire Maddy, quand elle a été attaquée dans son appartement de Praia da Luz. La jeune femme qui travaillait comme saisonnière au Portugal avait été violée par un inconnu qui était entré par une fenêtre, un homme au visage masqué ressemblant physiquement à Christian Bruckner, dont l'habitude était de pénétrer dans les appartements de cette façon pour y dérober montre, argent et passeport. Les parents de Madeleine McCann, qui auraient dû fêter son 18e anniversaire dans 2 jours, le 12 mai, ont toujours l'espoir de voir jaillir la vérité. Ils n'ont pas chassé l'idée de revoir leur fille vivante, même si cette éventualité est désormais hautement improbable. Nous continuons à croire au miracle. Il ne faut jamais perdre espoir, car les miracles arrivent tous les jours. Le collège où devait être inscrite Madeleine a depuis toutes ces années toujours gardé une place pour elle. Depuis la mise en cause de Bruckner dans le dossier Maddy, ce sont pas moins de 5 affaires d'enlèvement non élucidées en Allemagne, au Portugal, en Belgique et aux Pays-Bas. 5 affaires qui ont été rouvertes par les autorités de ces pays. Delphine Herbollier, la correspondante RTL à Berlin. Alors justement, le procureur, on l'a déjà dit dans cette émission, est assez sûr de lui. Vous nous avez révélé qu'il avançait des éléments matériels qui ont été retrouvés et qui pourraient attester de l'implication de Bruckner dans le crime concernant la petite Maddy. Où est-ce qu'en est l'affaire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des échéances qui se précisent?
Alors, il n'y a pas d'échéance vraiment annoncée, en tout cas. Mais c'est vrai que le procureur s'est dit optimiste de pouvoir conclure une partie de son enquête, en tout cas cette année. Il est optimiste également parce que Christian Bruckner est toujours en prison. Il y avait la possibilité au mois de février qu'il sorte de prison à l'issue d'une peine qu'il allait terminer. Mais désormais, il purge une autre peine qui a été confirmée par un tribunal et donc Christian Bruckner reste en prison en Allemagne. Il n'y a donc aucune possibilité de fuite et ça c'est essentiel pour les enquêteurs qui ont donc le temps, ils l'ont sous la main, ils vont pouvoir l'interroger, ils ne l'ont toujours pas interrogé, hein. En tout cas on ne le sait pas de manière officielle, peut-être qu'ils l'ont fait mais ils n'ont pas encore communiqué dessus. Et donc, ils ont encore la possibilité eh bien, de continuer cette enquête, de récolter des preuves, d'aller chercher, de fouiller autant qu'il faut. Bruckner ne va pas s'enfuir. Et donc, ça, déjà, c'est un énorme avantage. Il y avait un gros point d'interrogation à ce sujet ces derniers mois.
Bien sûr. Alors, évidemment, Bruckner, il est en prison. Il ne parle pas comme ça en public, évidemment. Mais il parle par la voix de son avocat. Qu'est-ce qu'il raconte, son avocat? Il dément systématiquement les accusations qui sont portées contre son client?
Oui, alors c'est ça. Alors donc Bruckner a choisi le silence, hein, c'est sa ligne de défense, même via son avocat. Ce qu'il dit et répète depuis le début, c'est que la justice a rendu l'affaire publique l'année dernière, en juin 2020 plutôt, et il a fait de son client le suspect numéro un auprès de l'opinion publique. Et d'après donc cet avocat, Bruckner est déjà condamné et il ne bénéficie absolument pas de la présomption d'innocence. Ça, c'est la ligne de défense de Christian Bruckner et de son avocat.
Oui, dans tous les cas, le procureur, répétons-le, est optimiste et il est assez affirmatif sur l'implication de Bruckner dans la disparition de la petite Maddy. Georges Moréas, ancien patron de l'anti-gang et puis auteur du blog Police, etc. En quoi cette enquête au long cours qui dure maintenant depuis des années est extraordinaire, j'ai envie de dire, et remarquable?
Des enquêtes au long cours, on en connaît pas mal, je suis chez nous en France. Ce qui est assez exceptionnel, c'est en fait que plusieurs pays, enfin trois pays en l'occurrence, sont concernés par l'enquête. Je suppose que dans le cas présent, les autorités judiciaires du Portugal ont rouvert le dossier qui était archivé pendant un moment et que les enquêteurs portugais se sont déplacés en Allemagne pour prendre connaissance du dossier qui a été réuni par le procureur, et éventuellement pour entendre le suspect, je ne sais pas, mais ça serait la démarche normale qui serait suivie dans une enquête, disons, peut-être moins pointue, moins médiatique, peut-être, si je peux me permettre ce mot.
C'est étonnant ce que dit Delphine Nerbollier, notre correspondante à Berlin. Elle dit que le procureur dit clairement qu'il y a des éléments matériels. En France, quand on a des éléments matériels, on met en examen très rapidement la personne. Là, ce n'est pas le cas, toujours.
Oui, c'est assez bizarre. C'est parce qu'en fait, s'il y a des éléments contre cet individu, les Portugais sont en droit de délivrer un mandat d'arrêt européen pour se faire remettre la personne qui, à l'issue de la peine qu'il est en train de purger, devrait être remise aux autorités portugaises. Or, on n'est pas dans cette situation, puisque les Portugais se sont fait un peu déborder par les policiers britanniques dans cette affaire, qui ont mis des moyens colossaux pour essayer de la résoudre. Et maintenant, ils sont pris de nouveau à contre-pied, en quelque sorte, par les autorités judiciaires allemandes, qui médiatisent quelque chose dont ils n'ont pas la maîtrise, alors que c'est quand même chez eux que les faits se sont passés et que c'est eux qui doivent mener l'enquête, en principe.
Donc il va y avoir un jeu compliqué à gérer, là, entre police, finalement. Parce que là, on rentre dans l'administratif, mais c'est important dans ce genre d'affaires.
Je crois qu'il va falloir un peu de diplomatie dans les forces de police et chez les magistrats, oui.
Alain Boulay, président fondateur de l'APEV, aide aux parents d'enfants victimes. Cette affaire, l'affaire Maddy, ça démontre quand même quelque chose de positif, c'est que finalement, quand on n'abandonne jamais, on parvient à tisser le fil, à remonter le fil d'une enquête qui paraissait totalement perdue au départ.
Oui, de toute façon, on a toujours l'espoir et les familles gardent toujours l'espoir qu'un jour la vérité soit découverte. Si on abandonne une affaire, et c'est évident qu'on ne trouvera jamais. Mais je crois que dans des cas de disparition, comme la petite Maddy, connaissant beaucoup d'enquêteurs, ils ne lâchent pas. Mmh. Et dès qu'il y a le moindre information qui peut aider, ils se relancent. Et là, on voit bien que la coopération a bien fonctionné. Ça prouve que dans tous les pays européens, tout le monde veut voir ces enquêtes aboutir. Mmh. Alors maintenant, on voit les policiers se concerter. Il faut bien voir que les associations, nous, on se concerte depuis plus de 20 ans.
Oui, tout à fait. Je voulais que vous nous disiez un mot là-dessus, Alain Boulay, parce que la mission arrive à son terme. Juste en quelques mots, et c'est important, il y a cette journée internationale des enfants disparus le 25 mai, et évidemment la petite Maddy en fait partie.
Bien sûr. Oui, tout à fait. Et on a créé une fédération européenne en 2001. c'est quand même assez ancien, ça va faire 20 ans cette année, pour justement accentuer la coopération entre les pays. On échange des dossiers entre associations. Maintenant, ce qui est bien, c'est que les polices, les justices le font, et c'est pour cette raison qu'on a créé un numéro vert qui va être largement diffusé lors du 25 mai, c'est le 116 000, qui permet, quel que soit l'endroit où on se trouve en Europe, d'appeler un numéro unique dans tous les pays pour tomber sur une association qui apportera de l'aide aux familles. Et c'est extrêmement important, comme pour la petite Maddy, où ce sont des Anglais qui étaient au Portugal.
Oui, bien
des
sûr.
Gens qui sont, on ne sait plus à qui s'adresser, on n'a pas ses repères puisqu'on ne vit pas dans le pays.
Bien sûr. On va répertorier évidemment ce numéro sur le compte de l'heure du crime, le 116 000, c'est ce numéro d'urgence pour les disparus dans toute l'Europe. Merci beaucoup Alain Boulet, merci beaucoup Delphine Herbollier et Georges Moréas d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'énigme Christian Bruckner, une ombre en filigrane du dossier Maddy, trajectoire qui garde encore bien des secrets. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Vivian Lecuivre à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.